le magazine des Nations Unies.
Nouvelle résolution du Conseil de sécurité pour un nouveau mandat de la MONUSCO, c'est la résolution 2409. Elle a été votée mardi dernier à l'unanimité. Dans cette édition, les priorités stratégiques assignées à la mission onusienne en RDC entre avril 2018 et mars 2019. Dans le cadre de ce mandat, la MONUSCO entend voir les femmes congolaises influencer positivement le processus électoral en cours. Léla Zerougui l'a dit le mercredi 28 mars 2018. C'était à l'occasion d'une journée de réflexion organisée à Kinshasa avec les femmes leaders. Les détails dans cette édition. Et puis l'Union européenne apporte une aide d'urgence en RDC, 49,5 millions d'euros pour lutter contre la crise humanitaire qui affecte quelque 13 millions de Congolais. Le commissaire européen en charge de l'aide humanitaire et de gestion de crise a effectué une visite la semaine dernière en RDC.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci de suivre le magazine des Nations Unies. La grande nouvelle de ce dimanche, c'est en tout cas le renouvellement du mandat de la MONUSCO pour une année, d'avril 2018 à mars 2019. Le Conseil de sécurité fixe ainsi à la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo comme priorité stratégique, la protection des populations civiles et l'appui à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et au processus électoral. Honoré Missenga Kalala revient sur le point saillant de la nouvelle résolution sur la RDC.
Concernant la protection des civils, la résolution 2409 parle d'une protection efficace, dynamique et intégrée dans le cadre d'une approche globale. Les forces onusiennes devront à cet effet notamment dissuader et empêcher tous les groupes armés et toutes les milices locales de commettre des violences contre la population ou alors en intervenant pour y mettre fin. C'est ainsi que dans ce même chapitre de la protection de la population, la résolution 2409 proroge également et à titre exceptionnel le mandat de la brigade d'intervention de la MONUSCO dont la mission est de neutraliser les groupes armés. Avec une nouveauté cependant, cette brigade est désormais placée sous le commandement direct du commandant de la force de la mission. La mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral constitue dans la nouvelle résolution la deuxième priorité fixée à la mission onusienne en RDC. Dans ce cadre, la MONUSCO est chargée de fournir un appui technique et politique à la pleine mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et au processus électoral, y compris en offrant des bons offices ainsi que par le dialogue avec les acteurs de tous les bords politiques. À cet effet, la 2409 demande aussi au président Joseph Kabila, à la majorité présidentielle et à l'opposition de mettre en œuvre sans délai l'accord de la Saint-Sylvestre, et ce, je cite, « en toute bonne foi et dans toute son intégralité ». La résolution demande notamment au gouvernement congolais d'appliquer l'intégralité des mesures de décrispation conformément à cet accord, notamment en mettant un terme aux restrictions de l'espace politique dans le pays, en particulier aux arrestations et aux détentions arbitraires des acteurs de l'opposition et de la société civile, ainsi qu'aux restrictions imposées aux libertés fondamentales telles que la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de la presse et le droit des réunions pacifiques.
Nous n'avons pas le droit de décevoir les femmes de la RDC, si en tout cas dans ces termes que Léla Zerougui, la chef de la MONUSCO, a conclu son message adressé aux femmes leaders. C'était à l'occasion d'une journée de réflexion organisée le mercredi 28 mars, notamment sur l'implication des femmes et des filles au processus électoral. Selon la représentante spéciale, représentant plus de 50% de la population, les femmes congolaises peuvent positivement influencer le processus électoral. Les propos de Mme Zerougui recueillis ici par Honoré Missenga Kalala.
En cette année électorale, les Nations Unies saisissent cette occasion pour réitérer leur appui à la participation des femmes congolaises aux prochaines échéances électorales, les femmes qui représentent 47% des inscrits ont un rôle important à jouer dans la consolidation de la paix et la stabilisation du pays. Elles travaillent et s'affirment. Elles subissent la violence, mais elles sont là, toujours déterminées à apporter leur contribution pour l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Elles s'imposent et peuvent faire la différence. Il suffit seulement de leur donner un espace politique. Les Nations Unies travaillent pour que les femmes puissent bénéficier de cet espace politique. Nous n'avons pas le droit de vous décevoir. Nous n'avons pas le droit de décevoir les femmes de la RDC.
49,5 millions d'euros, c'est en tout cas l'aide d'urgence que l'Union européenne octroie pour faire face à la crise humanitaire en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite lundi dernier par le commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises au cours d'un point de presse tenu au terme d'une visite dans ce pays. Monsieur Christos Stylianides a par ailleurs exhorté les autorités congolaises à participer à la conférence sur la crise humanitaire en RDC prévue à Genève en avril prochain. Jean-Pierre Elali Coco.
Le besoin humanitaire en RDC sont de plus en plus importants. C'est devenu la plus grande crise liée au déplacement en Afrique, a déclaré le commissaire européen ce lundi devant la presse. C'est pourquoi, a-t-il dit, l'Union européenne renforce son aide en octroyant 49 millions et demi d'euros à titre d'aide d'urgence pour plus de 13 millions de personnes dans le besoin en RDC. 42,3 millions d'euros de ce montant couvriront principalement les besoins élémentaires de la population touchée par la crise. 7,2 millions d'euros restants soutiendront les services de vols humanitaires de l'Union européenne, a indiqué M. Stylianides. Au-delà de ces chiffres, l'Union européenne entend débloquer plus de 60 millions d'euros en faveur de la région des Grands Lacs. M. Stylianides a dit avoir rencontré les autorités congolaises. En tant que coprésident de la rencontre de Genève, il les a exhortés à reconsidérer leur position sur ce grand forum et donc à y participer. Il estime que la participation du gouvernement congolais sera d'une grande contribution pour juguler la crise humanitaire qui ne fait que s'aggraver en RDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le service de lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, a organisé mercredi dernier ici à Kinshasa une session de formation des journalistes et ONG sur les mines terrestres et les restes explosifs de guerre. Pourquoi UNMAS estime qu'il est important d'outiller les journalistes dans ce domaine? Lionel répond à cette question et à bien d'autres. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Lionel Franière, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
UNMAS vient d'organiser une session de formation de journalistes et ONG sur les mines terrestres et restes explosifs. Alors pourquoi UNMAS s'intéresse-t-elle à ce genre d'activité pour les journalistes?
La lutte anti-mine est un domaine très important, malheureusement peu connu. C'est un domaine qui est aussi très technique et utilise des terminologies qui ne sont pas usuelles. Ce qu'on cherchait à faire, c'était pouvoir vulgariser les termes pour que tout le monde puisse comprendre ce domaine. C'est un domaine aussi qui affecte les gens. Les mines affectent la population tout autour du Congo, à l'intérieur du Congo. Et on voulait en fait vulgariser ces termes pour les journalistes, pour que l'information passe le mieux possible au travers des médias à la population.
Si je comprends bien, vous voulez aussi vulgariser ce que vous faites par les médias.
Absolument. On aimerait utiliser les médias comme un moyen en fait de faire passer l'information sur les risques liés aux mines et aux restes explosifs de guerre et aux comportements sécuritaires à adopter si on se trouve confronté à ça.
Vous parlez des mines terrestres, mines antipersonnelles et restes explosifs de guerre. Quelle nuance faites-vous entre ces trois concepts?
La menace principale au Congo, c'est vraiment les restes explosifs de guerre. Donc ce sont en fait des engins explosifs qui ont été soit tirés et qui n'ont pas détonné, ou des engins qui ont été abandonnés. C'est, pour prendre un exemple, un obus de mortier ou une roquette qui a été abandonnée lors d'une évacuation d'un camp.
Donc surtout c'est dans les zones de conflit.
C'est dans les zones de conflit, mais on en trouve aussi ici. Un reste explosif de guerre, par exemple une grenade lacrymogène qui a été lancée et n'a pas explosé, est considérée comme un reste explosif de guerre. Par opposition, une mine, c'est un engin qui a été placé délibérément dans le sol ou à proximité du sol dans le but de créer un piège et qui est activé par la victime elle-même. C'est un piège, alors qu'un reste explosif de guerre, c'est une munition qui a été tirée et n'a pas explosé ou qui a été abandonnée.
Et on parle des mines antipersonnelles.
On parle de mines antipersonnelles. Il y a deux types de mines qu'on trouve au Congo, mines antipersonnelles et mines antichars. Le principe est le même, c'est la victime qui crée le déclenchement de l'engin explosif. Mais la différence principale, c'est la masse d'explosifs qui est utilisée et l'objectif. Une mine antipersonnelle visera à mutiler, à stopper un ennemi ou une personne, un humain, tandis qu'une mine antichar sera faite pour stopper la progression d'un véhicule. Donc elle est beaucoup plus grosse, beaucoup plus puissante.
Vous comprendrez bien, c'est qu'en RDC, il y a aussi des mines antipersonnelles. Où est-ce qu'on peut les trouver précisément dans notre pays?
Alors, pour avoir les précisions, une masse à des cartes, pour vous montrer exactement où c'est. En gros, c'est au nord-ouest du pays et un peu au centre. Je vous invite à venir dans les bureaux d'une masse regarder les cartes qu'on a fait. Mais il y a une contamination par mine. Il y a environ 700 000 mètres carrés qui sont pollués en RDC.
Revenons un peu aux risques. Quels sont les risques auxquels sont exposées les populations qui vivent dans les zones affectées par les mines ou tout simplement des régions qui sont affectées par les restes explosifs?
Donc le risque principal, c'est de faire détonner un de ces engins, que ce soit une mine ou un reste explosif de guerre, d'être mutilé, d'être tué par ces engins-là. C'est un risque qui est très important, qui est principalement dû au reste explosif de guerre. Les mines ne tuent plus à l'heure actuelle. On a eu une victime de mine dans les 4 dernières années. Par contre, les restes explosifs de guerre, c'est quelque chose qui mutile et tue des personnes à l'heure actuelle. On trouve à l'heure actuelle beaucoup d'engins dans les régions de l'Est du Congo ou dans les zones de conflit.
Donc moins de mines antipersonnelles, moins de mines tout court, mais plus de restes explosifs.
C'est vrai, les restes explosifs de guerre, donc les explosifs de guerre sont utilisés encore actuellement. On parle là de grenades à main, on parle de roquettes, on parle de mortiers éventuellement. Ces explosifs utilisés dans le cadre d'une guerre restent à quelque part. Il y a des défauts de détonation qui créent ces fameux restes explosifs de guerre ou alors toujours des munitions abandonnées.
Oui. Qu'est-ce que vous dites à propos de ceux qui disent que la mine antipersonnelle ne tue pas?
La mine antipersonnelle est designée en fait pour blesser l'ennemi. Par contre, quand vous êtes blessé, quand vous avez une jambe qui est amputée, traumatique, vous avez un saignement très important et vous avez un très grand risque en fait de mourir. Il faut aussi prendre en compte les victimes indirectes. Si un père de famille est mutilé alors qu'il travaillait dans son champ, il y a très fort à parier que toute sa famille va en pâtir, va subir cette mutilation indirectement et ça peut créer une mort.
Alors, on parle des risques des mines, on parle des risques des restes explosifs en République démocratique du Congo. Revenons-en maintenant au rôle que l'UNMAS joue concrètement dans cette lutte, surtout en ce qui concerne la gestion, les plaidoyers et la dépollution des zones concernées.
Alors en RDC, le mandat de UNMAS, c'est de coordonner l'action des activités des Nations Unies dans la lutte anti-mine humanitaire. Donc sous le plan d'action nationale qui a été édité par le Centre congolais de lutte anti-mine, nous conduisons des opérations en lien avec les 5 piliers de la lutte anti-mine.
Donc c'est lesquels?
Le déminage avec un focus sur les restes explosifs de guerre, l'éducation au risque, la destruction des stocks, l'assistance aux victimes et le plaidoyer.
Une dernière question, Lionel. Pensez-vous que la RDC pourra atteindre un jour ses obligations vis-à-vis de la Convention d'Ottawa d'ici 2021? C'était le deadline qui a été fixé.
Oui, un nouveau plan d'action national a été validé en novembre 2017 avec le concours du CCLAM et de UNMAS. Ce plan sur 2 ans a pour but de rendre le RDC libre de mines d'ici 2021. Avec une bonne coordination et les ressources nécessaires, c'est possible d'atteindre ces objectifs. Ça ne va pas être facile, mais c'est possible. Je pense que ce n'est pas une tâche facile, mais les opérateurs de la lutte anti-mine sont mobilisés et souhaitent tous appuyer la RDC à accomplir les obligations pour atteindre cette deadline.
Et là aussi, c'est avec l'aide des UNMAS.
C'est avec l'aide du Centre congolais de lutte anti-mine qui coordonne. UNMAS apporte son soutien technique, son expertise également. Et bien sûr, on travaille de concours. Notre objectif est commun et c'est vraiment d'avoir la RDC libre de mines en 2021.
Lionel Franière, je vous remercie.
Merci à vous.
Commençons par ce rapport de la section protection de l'enfant de la MONUSCO. Plus de 300 enfants ont été affectés directement par le conflit armé, les violences physiques, sexuelles et psychologiques pendant la période du 1er au 23 mars 2018. C'est principalement Nord Kivu, en Ituri, dans le Grand Kasaï, où milices et groupes armés bafouent de manière flagrante et alarmante les lois portant protection de l'enfant. C'est en tout cas ce que souligne ce rapport. La section protection de l'enfant appelle toutes les parties, sans exception, au respect des textes, des lois relatifs à la protection de l'enfant. Et puis le gouvernement japonais octroie 900 000 dollars américains à l'Organisation internationale pour les migrations. Ce financement sert à aider 200 000 retournés, déplacés et membres des communautés hôtes touchées par la crise humanitaire dans le Kasaï. Pour rappel, le conflit survenu en août 2016 dans le Kasaï a entraîné environ 1,4 million de personnes déplacées internes. Et certaines populations se sont réfugiées en Angola voisin. Et on reste dans le domaine des réfugiés pour annoncer une bonne nouvelle. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR se réjouit de la reconnaissance de la carte d'identité des réfugiés comme document de transaction financière à Kinshasa et dans le Congo central. En effet, les réfugiés de la République du Congo, résidant à Mbandangungu et Kimaza dans la province du Congo central, ont informé le ACR de l'aboutissement heureux de ce dossier dans cette province en précisant que plusieurs institutions bancaires opérant dans cette localité acceptent dorénavant ce document pour les opérations financières. Cela a pour conséquence de faciliter et d'améliorer leurs capacités socio-économiques.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Et l'invité de ce dimanche est M. Abdulaziz Thioy, directeur du Bureau conjoint Nations Unies aux droits de l'homme, BCN-UDH. Il a participé à la 37e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, où il a été surtout question du dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme en RDC. M. Thioy évoque les points importants de cette rencontre, mais aussi les grandes tendances du rapport de février sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il s'entretient ici avec Jean-Pierre Elali, Ikoko.
Monsieur Aziz, bonjour.
Bonjour, monsieur Elali.
Vous avez été à Genève où il y a eu un dialogue interactif sur le recours illégal et disproportionné de la force en République démocratique du Congo pendant une certaine période. Quels sont les faits saillants que nous pouvons retenir de ce qui s'est passé à Genève?
Oui, en effet, je reviens de Genève où j'avais accompagné la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Leila Zerougui, qui a participé à la session interactive, au dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme en RDC, à l'occasion de la 37e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Et les participants sont revenus longuement sur les éléments d'information que nous avons communiqués à la presse et sur lesquels nous sommes prononcés largement au cours de la présentation de notre rapport annuel en janvier 2017, mais également sur la situation du Kasaï, mais également la répression des manifestations convoquées par les partis politiques et surtout les dernières qui ont été convoquées par le CLC. Des préoccupations ont été soulevées quant à la détérioration de la situation des droits de l'homme dans le pays. Le Kasaï, le Nord Kivu, disons l'Est du Congo en général, mais également les répressions violentes des manifestations appelées par les partis politiques et la société civile en RDC au moins au cours de la période que nous avons indiquée. Mais par ailleurs, les membres du Conseil se sont aussi beaucoup réjouis que le gouvernement ait décidé de mettre en place cette commission mixte qui a enquêté sur les violences liées aux manifestations du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018.
Oui, restons toujours sur ce qui s'est passé à Genève. Et vous l'avez révélé ici à la presse, peut-être ce n'était pas connu, que la ministre aux droits humains a déclaré que le gouvernement congolais a décidé de la levée de l'interdiction des manifestations publiques.
Tout à fait. Cette annonce a été faite à la tribune du Conseil des droits de l'homme à l'occasion du dialogue interactif mardi soir. Je vous invite à aller sur le site de UN Web TV et vous pourrez voir la session consacrée au dialogue interactif sur le Congo et la déclaration de Madame Mouchebekwa, qui effectivement a partagé avec l'assistance la décision prise par le gouvernement congolais de lever la mesure d'interdiction de manifester pour des raisons liées au contexte électoral, disons, que le gouvernement considère qu'il est important de créer les conditions pour que différentes sensibilités politiques puissent s'organiser en direction des prochaines élections.
Un fait remarquable lors de cette rencontre, c'est le fait qu'on puisse, ici en République démocratique du Congo, avoir une commission mixte d'enquête, et cela a été fait. Et maintenant, la grande question, c'est que cette commission a donné lieu à des recommandations, et parmi ces recommandations, il y a le fait qu'on pouvait avoir des enquêtes judiciaires. pratiquement deux semaines après, rien n'est fait au niveau du ministre de la Justice et aussi au niveau du procureur général de la République pour justement mener ces enquêtes judiciaires. Que peut alors faire le bureau conjoint à ce stade pour que les choses aillent plus vite?
Bon, je pense quand même qu'il faut peut-être un peu de patience. S'il y a une procédure de flagrance, oui. Mais nous parlons d'événements qui ont eu lieu le 31 et le 21, sur lesquels la commission a travaillé. Donc, c'est des faits qui ont eu lieu en décembre et en janvier. Comme vous l'avez vu, il y a des arrestations qui ont été menées. Et un jugement expéditif avec célérité a été fait, au moins à Madaka. Ce n'est pas une question de minutes, ce n'est pas une question de jours, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est une affaire assez sérieuse qui concerne des pertes en vie humaine.
Et terminons par les tendances de votre rapport de février. Vous avez observé une certaine tendance à la diminution des cas de violation des droits de l'homme. À quoi est due cette régression?
Principalement, le nombre de jours. Comme vous le savez, février est beaucoup plus court. Donc c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, on a connu une répression le 25 février d'une ampleur moindre que ce qu'on avait l'habitude de voir. Deux morts, c'est beaucoup, mais on avait l'habitude d'en avoir plus. C'est déjà un premier élément d'explication. Les personnes qui avaient été arrêtées pour beaucoup ont été libérées. Je crois qu'il y a eu une petite accalmie au courant du mois de février.
Monsieur le directeur, Radio Capi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Le renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC ne laisse pas indifférentes les populations congolaises. Ici à Kinshasa, elles se sont exprimées sur ce nouveau mandat. Leurs avis restent partagés. Les uns encouragent la continuité de ce mandat pour le maintien de l'appui en RDC jusqu'à l'aboutissement d'une alternance du pouvoir au pays. Les autres, par contre, estiment que le mandat de la MONUSCO doit s'arrêter. Suivant leur point de vue, au micro d'Askien Zigbia Tayoro.
Nous attendons de la MONUSCO des réalisations qu'ils n'ont pas pu accomplir pendant les années qui se sont écoulées. Et nous pensons qu'ils vont nous aider à l'organisation des élections et à faire partir les groupes armés qui sèment la terreur.
Non, nous ne sommes pas besoin de mandat de MONUSCO. Tu vois, il peut partir, nous-mêmes, les Congolais, on doit faire les élections.
Oui, la MONUSCO peut nous aider en tout parce qu'on a la confiance à la MONUSCO par rapport à nos frères propres Congolais parce qu'ils commencent déjà à nous tirer au-dessus.
Si moi j'étais autorité de la MONUSCO, j'allais tout simplement laisser les Congolais faire leur truc entre eux. Le gouvernement est censé de rémunérer les agents de l'ordre, ceux qui sont censés protéger la loi dans ces pays.
Par rapport aux élections, je crois qu'ils ne vont rien apporter de plus. Et pour la protection de la population, j'étais sur poids lourd et il y a un militaire qui vient de tirer à bout portant un civil. Ils ont regardé, ils n'ont rien fait, ils sont partis.
Par rapport à ça, la MONUSCO a toujours un mot à dire. Parce que la MONUSCO joue un rôle de maintien de la paix. Elle verra dans quelle mesure où elle peut mettre la paix pour qu'il y ait l'alternance dans le pays.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Comment le programme humanitaire va-t-il être exécuté avec les nouveaux apports de l'Union européenne et de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, si l'insécurité se généralise? Suivez cette question et bien évidemment la réponse de M. Yvon Edoumou de OCHA. C'était la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa.
Comment on va exécuter ce programme avec ses apports compte tenu de la situation d'insécurité généralisée?
Les humanitaires ne peuvent pas avancer l'insécurité, les coups de balle et autres comme facteurs pour ne pas travailler. Ce que l'insécurité provoque, ça nous force à peut-être revoir nos programmes, peut-être les retarder quelque peu, mais il faudrait vraiment un gros cataclysme ou vraiment une situation sécuritaire tellement désastreuse pour ne pas exécuter les activités pour lesquelles nous sommes sur le terrain.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Fidèles auditeurs de Radio Capi, bonjour. Je suis Michel Kifindangoy. Je suis marié à Rebecca Lomboué depuis novembre 2011 et nous avons trois enfants. Un garçon de 5 ans, Dieudonné Kevan, une fille de 3 ans, Denise Renate, et la cadette à 11 mois, Marie d'Afrose Keren.
Donc je suis licencié Bac plus 5 en sciences de l'information et communication, spécialiste en journalisme politique intérieur à l'université de Kinshasa. Avant d'entamer mes études universitaires, j'avais suivi un parcours scolaire normal à l'Institut Mwangaza de Kalemie en section littéraire, latin et philosophie. C'est l'occasion ici pour moi de saluer tous mes enseignants du collège Mwangaza de Kalemie ainsi que tous les professeurs qui m'ont donné cours à l'université de Kinshasa. Au sein de la MONUSCO, en fait je voulais parler de mon parcours professionnel, j'assume depuis mai 2016 la fonction du journaliste permanent de Radio Okapi au Parlement. Je suis donc chargé jusqu'à ce jour de couvrir pour le compte des Radio Okapi toutes les plénières et travaux en commission, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Vous comprenez que ce n'est pas du tout facile d'organiser mon travail au regard de ce à quoi je dois m'occuper au quotidien. S'il faut par ailleurs ajouter la production de l'émission hebdomadaire Grande Interview de 30 minutes. En termes d'organisation de mon travail, je dispose d'un bureau studio au Parlement, en plus de celui du Texte Africa, siège de la Radio Okapi. Chaque fois qu'il y a plénière, je travaille à mon bureau du Parlement. Quand le travail parlementaire est fini, le mien se poursuit, car je dois produire des reportages sur base des conclusions de leur travail. Ce qui fait que parfois mon travail peut aller jusqu'au-delà de minuit. Lorsque les parlementaires sont en vacances, je travaille chaque matin à la station de la radio Okapi. Généralement, dans ce contexte, je suis beaucoup plus relax et je finis mon travail aux heures normales, donc 8 heures de service par jour. Quant à mon parcours professionnel, je suis à Radio Okapi depuis mai 2010. J'avais commencé comme stagiaire au service web, puis comme reporter aux news. Après avoir signé mon premier contrat avec la Fondation Hirondelle en 2011, j'étais chargé de couvrir toutes les informations de proximité sur Kinshasa. Les problèmes des routes, des érosions, des manques d'eau, d'électricité et d'insécurité. En 2013, j'ai signé mon premier contrat avec les Nations Unies. Et là, je me suis spécialisé dans la couverture des informations liées à la sécurité intérieure du pays. Alors, mes préférences. En termes de mets, je suis généralement très sobre. Pour moi, le repas est un simple carburant pour refaire mes forces. Ce qui veut dire que je n'ai pas assez trop de choix alimentaires. Je mange tout ce qui se présente. J'ai un ventre missionnaire. Et donc, je mange tout ce qu'un humain peut manger. Mais il m'arrive généralement de manger avec beaucoup d'appétit le repas préféré de mon enfance, le riz aux haricots. Mon sport préféré est la natation. Malheureusement, depuis que je suis à Kinshasa, je n'ai presque plus le temps de la pratiquer. Je me réfugie donc dans la marche à pied. Ma musique préférée est constituée d'abord d'Ile Vivant, les chants de louanges et méditations de la communauté de l'Emmanuel au sein de l'église catholique romaine. Dans le monde sans être du monde, j'aime aussi la musique congolaise non chrétienne. Je me laisse donc bercer par Ferregola, Fally Ipupa, Papa Wemba Kofi Olomide et Jibem Piano. Si j'ai envie de bouger, je n'hésite pas d'écouter Werenson et autres. Mes projets d'avenir, waouh! Mes projets après la MONUSCO, en tout cas j'en ai autant. Je tiens à les réaliser coûte que coûte et je sais, je crois fermement que je vais les réaliser. Je serais trop prétentieux ici de me mettre à parler des différents projets de ma vie. D'abord, même si je commençais, je ne saurais pas tout dire. Et si je disais un seul, alors je l'effacerais juste après cette émission de la liste de mes projets à venir. Ce qui est sûr, je suis encore trop jeune. Toute la chance de la vie est devant moi. Je ne fais la course avec personne, je n'envie rien car tout vient en son temps. Je prends mon présent avec beaucoup de sérieux, je regarde mon passé dans des petits rétroviseurs et je rêve mon avenir beaucoup meilleur que le présent. Je conseille à tous ceux qui me connaissent que le destin a mis à mon parcours de jouir de moi au maximum car le jour viendra où ils ne sauront plus me voir à leur côté. C'est ce que je fais aussi tous les jours de ma vie. Je crois fermement que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours m'ont été envoyées par les destins pour réaliser mes projets. Comprenez donc que tout être humain a du prix à mes yeux. Et je crois lui accorder toute mon attention et toute ma générosité car le lendemain appartient à Dieu. Je voudrais pour finir m'adresser à chaque auditeur de Radio Okapi qui m'entend en ce moment. Mark Twain disait...
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et moi, j'ai retenu, ne seront impossible d'être réalisé que les projets que je n'aurais jamais osé de mettre en œuvre. Tout ce que j'oserai réaliser réussira et la légende de son impossibilité finira. Croyons donc à la réalisation de nos projets et nous pouvons vivre la vie des enfants. Je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Deux événements à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 4 avril, c'est la journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mine. Et puis le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Voilà, c'est déjà la fin de ce magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Willem Lungamba, à la coordination, réalisation et reportage, Jean-Pierre Lali Coco, au reportage également, Honoré Missinger, sous la supervision de Martin Sebujangwe. À très bientôt sur Radio Capi. Bon dimanche de Pâques à tous. Ciao.